Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, on va faire un retour sur la Coupe du Québec. Donc, on avait le 10 km de l'Université Laval qui avait lieu la semaine, le dimanche passé. Mais tout d'abord, on va faire un petit retour sur le McGill Open qui se passait aujourd'hui, vendredi, il y a quelques heures, et auquel tu as participé toi-même. Donc, tout d'abord, peux-tu un peu nous décrire les conditions, comment c'était courir ce parcours? C'était ta
Ça
première fois
t'arrête, ouais.
d'ailleurs, oui?
Oui, ben ça a été une bonne course quand même assez éprouvante, là, mais j'ai bien aimé le parcours, là. C'était en fait 3 fois la boucle de 2 km dans le bas du Mont-Royal. Donc c'est ça. C'était une belle course, là. Il y avait une belle température, un bon climat aussi. Une petite brise au début, malgré que dans les autres tours, on la sentait pas trop, mais je pense que ça
Ouais.
a quand même dû aider.
Le corps commence à chauffer un
Ouais,
peu,
c'est
là.
ça.
Ah ouais.
Ça
C'est
doit
ça.
être
Les
ça.
hommes qui faisaient 6 km, donc 3 boucles, et les femmes 2 boucles,
Pour 4 km,
4 km.
c'est bien ça.
Ouais. Puis il y a toujours une belle côte. Le McGill Open, c'est toujours un bon rust buster. Donc on enlève la rouille. Puis on se met dans la saison de cross. Mais c'est quand même un parcours que, même s'il est court, il est quand même pas facile, je dirais. J'osais de ça avec quelqu'un aujourd'hui qui me disait. J'oublie c'est qui, désolé. Mais cette personne à qui je jasais disait, ce qui est tough, c'est que y a jamais de repos sur ce parcours-là. T'es toujours en train soit de descendre, soit de monter, soit
Ouais, toujours
de
des petits
c'est
défis,
ça. T'es
là.
toujours en train, tu sais, y a très peu de plats
C'est
sur ce
ça.
parcours-là.
Même à certains endroits, il y a comme un trou, là, donc il faut décider si soit on saute ou
Ah oui,
soit on
ouais.
rentre dans le trou puis
Ah ouais,
on va de l'autre côté, là.
un peu après le départ, là, puis
Ouais, c'est
après ça tu
ça.
montes la
Environ
petite côte,
400 m
puis
après.
après ça tu as comme un espèce de petit chemin de terre, puis là il faut que tu sautes, puis après ça tu descends, puis là tu as un autre trou par lequel sauter, ou certaines le sautent pas, mais ouais, dans le passé, ben moi je sautais, c'est plus avantageux de sauter,
Oui, tu perds moins de temps,
mais
moins de
ouais,
vitesse un petit peu comme ça,
mais c'est un peu plus épeurant, mettons,
là. Ouais,
faut que tu aies
faut que tu
confiance.
sois confiant de
Puis que
ton
tu
coup.
pleures pas. Mais ouais, c'est ça, j'y étais en tant que spectateur, des belles conditions parfaites pour un spectateur. Il fait une dizaine de bonnes températures, je pouvais jogger un peu pour me rendre d'un point à l'autre, pour
C'est ça.
voir courir à différents endroits du parcours. C'est ça, c'est le fun. Une petite boucle de deux, t'as l'occasion de revoir le monde bien souvent. Malheureusement, je suis arrivé un peu après le départ des filles, fait que j'ai juste vu surtout le finish. Mais c'est ça qui arrive quand tu habites à côté d'une affaire. Tu te prends
Tu
toujours
penses
aux dernières
tu vas avoir le
minutes.
temps, mais là,
Ouais,
finalement, t'es plus en
c'est
retard.
ça. J'essaie de passer une commande de Provigo, avoir un espérance, c'est trouver un rabais. Bref, trêve de divergence. Dans le fond, moi, initialement, je voulais un peu faire mes prédictions pour le Mega Open. Mais là, j'ai été un peu occupé avec ma nouvelle job d'enseignant. Donc, là, je l'aurais peut-être fait hier soir, mais là, le monde n'aurait pas eu le temps de l'entendre. Fait qu'on s'est dit, à la place, on va faire les résultats. Mais j'ai jasé un peu avec toi, Nathanaël.
Oui, c'est ça.
J'ai dit c'était quoi mes prédictions. Et j'ai eu raison sur une des deux. Donc, j'avais vu le nom de Pierre-Loup Biro. Puis là, j'ai dit, ah, lui, je pense qu'il a une bonne shot à le gagner. Et comme de
C'est
fait,
vraiment
il l'a
ça qui est
gagné.
arrivé.
Côté féminin, par contre, j'avais dit Catherine Beauchemin. De Laval, mais elle a fini troisième. Donc, je vais aller sortir les
Puis c'est
résultats pour que tout
Elisabeth
le monde voit. C'est ça, c'est
qui est Liz,
Elizabeth
ouais.
Hirsch,
Était en
Liz pour les
première
intimes,
position.
qui a réussi à remporter ça. Donc, je vous sors ça pour ceux qui regardent. Donc, en première place, Liz Hirsch de McGill. Ensuite, on avait une belle bataille. On avait Chloé Florent Grégoire de McGill aussi, qui se battait avec Muriel Aglo. Et Elodie de Cohen. Et au final, c'est Chloé qui a réussi à triompher
En
contre
deuxième
son ancienne
place.
coéquipière, Muriel, qui était avec McGill aussi dans le passé. Mais j'ai l'impression que peut-être qu'il y a beaucoup de monde ces temps-ci qui, à cause des études, puis tout ça, 1 million de projets, qui peuvent plus, qui arrêtent de courir universitaire. Je sais pas si c'est son cas à elle, j'ai pas eu l'occasion de lui demander. Mais de plus en plus, c'est la demande de la charge de travail des étudiants. Pas facile de faire plusieurs choses en même temps.
Oui, avoir une bonne
Toi-même.
balance, des fois,
Ouais, c'est ça. Toi,
c'est complexe.
tu vas le voir cette session là,
Oui.
avec là, ça va être ta
Commencer
première
déjà à voir un petit
saison.
peu,
Ouais, c'est ça. Puis là, tu commences à des cours de plus avancés aussi.
là.
Fait c'est ça, les cours plus avancés, tout ça, ça se met ensemble. Puis c'est ça, il y a beaucoup de monde qui, malheureusement, que ça devient trop difficile de tout faire. Fait que tant qu'à être pas bon
Faut
dans
pas
plusieurs
trop se mettre de poids
choses,
sur les
c'est
épaules
ça.
non plus,
Tu
c'est
focuses sur une couple d'affaires pour
ça.
bien les faire. Puis c'est ça. Donc, Elodie de Cohen, ensuite Catherine Beauchemin, quelques secondes après. Et Sandrine Veillette de l'Université McGill qui finit le top 5 universitaire en 14,53. Maintenant, si on regarde au niveau des équipes, on avait l'UQTR qui a fini 3e avec 96 points. Étrangement, le Rougeur de Laval qui finit 4e, c'est quand même atypique. D'habitude, les filles du Rougeur sont fortes. Mais on sait qu'ils n'ont pas envoyé leur top équipe, du moins je pense, vu que j'ai vu la composition de leur équipe c'était pas les gros, tous les gros noms qui étaient présents, je crois.
Bon, c'est pas vraiment évident.
C'est ça. Donc souvent il y a certaines équipes qui au cross-country qui choisissent de ne pas envoyer leur plus grosses étoiles à toutes les courses parce qu'ils veulent les reposer.
C'est ça.
Moi je me souviens pour nous McGill ben, on le faisait quand même parce que c'était notre course à nous mais ensuite de ça Sherbrooke souvent moi je l'ai en fait je l'ai jamais fait Sherbrooke j'ai la course à Sherbrooke à chaque fois les premières années je voulais vraiment la faire parce que je voulais tout le temps compétitionner tous les week-ends mais plus ça avance plus t'es habitué de faire des courses plus t'es ah, ouais, ça je vais faire
On
un bon
choisit quelques unes
workout.
au lieu d'un autre.
Ouais, c'est ça. On choisit nos courses pour pouvoir faire les entraînements. Donc, ce Laval, dans le passé, historiquement, ils ont pas. Souvent, ils n'envoyaient pas leur top coureur. Ils envoyaient une coupe de bons coureurs, mais de leurs meilleurs d'habitude, souvent, ils les gardaient pour d'autres courses. Pas trop surpris de ça en même temps, mais je pensais qu'elle le remporterait. Donc. Franchement, les filles de McGill qui sont encore fortes cette année.
Oh oui. Un
Ensuite, ça.
chapeau.
Ouais, chapeau aux filles, c'est
C'est
ça.
ça.
Ouais, un petit shout-out aux filles de McGill. Les Patriotes qui ont terminé 3e avec 96. Les Carabins, 2e, 68. Donc, Carabins qui pourraient venir jouer les troubles fêtes maintenant cette année. Ils ont quand même plusieurs coureuses assez fortes. Lauriane Lépine qui était 6e universitaire, 7e au total, que j'ai pas nommé, mais. Qui est très forte. Ouais, cette année, ça va être intéressant de voir le classement. Les Carabins
Prochaine
pourraient être de
course.
la donne, ouais. Enfin, McGill, grosse domination à la maison, 23. Ils ont eu les coureuses 1, 2, 5, 7, 8. Donc, ouais, ils étaient bien présentes et là pour gagner à la maison. Ensuite, du côté des hommes, on a eu en première position Pierre-Loup Biraud, qui comptait pas universitaire, même s'il court pour l'ETS. Je pense qu'il compte pas universitaire parce que ça dit qu'il n'avait pas
C'est
de
inclus,
score.
c'est
Ou
ouais, c'est
peut-être c'est parce que l'ETS n'a pas assez de coureurs, en fait. Ouais, je pense que c'est pour ça, dans le
OK.
fond. Donc, il est un des seuls. Peut-être qu'il y en avait d'autres de l'ETS, mais en tout cas, il faut. Dans le fond, en cross-country, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, c'est le top 5 qui compte. Donc, tu comptes les positions, puis tu vas faire le plus petit score possible. Donc, plus ils finissent dans les positions, des positions en premier, donc mettons 1, 2, 3, ben là, ça voudrait dire un score de 6, 3 plus 2 plus 1. Donc, ben, tu rajoutes. En fait, il faut en avoir 5.
Oui, c'est ça.
Donc, fait que si tu as moins que 5 coureurs, ben, tu peux pas compter. Puis ensuite, tu as les displacers. Donc, les coureurs 6 et 7, qu'eux, ils vont pas s'ajouter au score, mais ils comptent comme des personnes quand même dans la course. Donc, s'ils finissent devant un autre du top 5 de notre équipe, ben là, ils peuvent leur rajouter une position, donc rajouter un point, ce qui est pas une bonne chose pour l'autre équipe, mais ce qui est avantageux pour son équipe. Donc, puis à ceux de ce coureur 8, 9, 10 ne comptent simplement pas dans le score. Donc, c'est pour ça que tu peux. C'est pour ça que ça peut être. D'habitude, c'est pas super important quand les équipes c'est assez serré, mais tu peux avoir des cas où tu as une équipe qui a un ou deux très bons coureurs, mais qu'ensuite de ça, le reste sont un peu moins bons. Puis versus une autre équipe qu'ils n'ont pas les top 2, mais ils ont un bon pack de coureurs qui sont bien ensemble. Alors, le top 5 est moins fort, mais ils sont très, très,
Très collé.
très collés dans les temps. que là, les displacers pourraient être importants si les top 7, les coureurs 6 et 7, finissent devant les coureurs 4, 5, 6 de la bonne équipe, 4, 5 de l'équipe qui est meilleure. Donc, bref, après cette petite leçon de comment il score le cross-country, on a Thomas Windisch qui a fini premier universitaire et qui a failli. C'était vraiment une bonne bataille à la fin. J'ai capturé ça sur ma caméra. Il courait, il essayait de rattraper Pierre-Loup, mais Pierre-Loup a dit non. Il a poussé lui aussi. Il s'est pas laissé avoir. Ouais, c'est pas laissé à faire. Puis il a réussi à tenir ça.
Combien de temps différent, mon Dieu?
Ils ont le même temps,
en 19-14
tous les deux. Fait que techniquement, Pierre-Loup était devant, mais c'est ça, le même temps enregistré. Donc, une bonne bataille. André Ali Lamarche des GGs d'Ottawa, qui a fini troisième. Christopher Busset du Rouge et Or, donc une recrue. Ben, en fait, c'est pas une recrue, c'est sa deuxième année, mais franchement, un très bon temps, 41, 19-46, c'est une quatrième position. Jules Burnett, qui courait avant avec le Sherbrooke, là, qui n'a pas d'équipe apparemment, qui courait individuel. Et enfin, Henry Wallenstein, la recrue de McGill, ben, qui finalement montre ses couleurs avec une belle cinquième position universitaire. Et ensuite, on avait Antoine Mainfré qui avait été annoncé comme la recrue de l'Université Laval. Donc, ils avaient dit ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire. Donc, quand même, pas mauvais pour une recrue de finir 7e, 6e universitaire, 8e au total dans cette course. Et aussi, c'était assez intéressant, c'était tout un sprint finish avec lui, David Girardin du Rougeard aussi et Kevin Robertson, qui ont tous les trois fini en 20-02. Donc, je me souviens, moi j'aime ça, je filme ça, là, je filme les finishes, puis là je fais comme des petits bruits, comme oh oh, puis là, j'ai l'impression, je sais pas si ça les influence beaucoup, mais tu vois, j'aime ça quand je vois ceux qui veulent vraiment essayer d'aller chercher la position de plus. Fait que je vais essayer de voir si je peux pas faire un petit montage. Juste des vidéos où est-ce que vous allez entendre des oh 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 puis pour peu importe la position, c'est toujours le fun de voir le monde qui se bat jusqu'à la fin puis qui essaye d'arracher une position. Donc et finalement pour les équipes côté masculin, on va regarder ça. Donc pour les hommes, c'est le Sherbrooke Varéard avec 72 points qui termine en 3e. Ensuite, les GGs d'Ottawa 52, 2e et un seul point de différence. Le Laval Rouge et Or 51 points qui arrache la première position. Puis ils n'ont pas envoyé leur full squad Laval, loin de là. Donc, il n'y avait pas un nom que je reconnaissais quand j'avais vu la liste, ben, du moins quand il avait annoncé Antoine Mainfré, ça, j'avais aucune idée. J'ai pas trop regardé trop en détail, mais c'est ça, je voyais qu'ils n'avaient pas envoyé Félix Lapointe Pilote, leur top guy. Fait que franchement, ça risque d'être encore une fois une domination, j'ai l'impression, du Rouge et Or. Mais quand même, il y avait juste un point de différence à cette santé. Mais c'était entre les GGs. Donc, on se disait ça, Sherbrooke qui était quand même assez loin. Peut-être qu'eux aussi n'ont pas envoyé leur top squad, mais c'est à voir. Ça sera à voir dans les prochaines courses. La première course ne veut pas dire grand-chose. La première course, par exemple, j'avais jasé avec John Lofranco, le coach de Concordia, et mon coach. Puis ça, il disait qu'il avait donné comme tâche à ses athlètes de juste courir ça tempo. Puis à la fin, peut-être le dernier kilo, là, tu pouvais pousser. Mais ça, il leur avait dit de ne pas se pousser. Donc, on ne peut pas trop savoir si la performance de chaque athlète valait vraiment ça. On est certain qu'on sait qu'ils ont tout donné. Sûrement dans les premières positions, ils ont quand même poussé. Mais après ça, ça veut pas nécessairement dire le résultat qui est obtenu là. Donc, mais ça donne quand même une bonne idée un peu, c'est des compositions. On aurait une meilleure idée, selon moi, pas à Sherbrooke, parce qu'encore une fois, c'est pas toutes les équipes qui envoient leur top coureur, Mais au Interlock qui aura lieu, je pense, à Montréal, à Maisonneuve, je pense.
Ouais, c'est ça, c'est
Donc là, on aura le même
l'Open
prix.
de l'UQAM.
OK, donc c'est le Open de
Est-ce que c'est
l'UQAM?
ça? Je suis pas certain.
Je sais pas. On vérifiera ou on rectifiera aux prochaines nouvelles. Mais je sais que c'est le Interlock, donc que ça, c'est. T'as toutes les équipes aussi de l'Est. Non, de l'Ouest. Non, de l'Est, c'est ça, de l'Est du Canada sont aussi invités. Donc, c'est pas juste ceux du RSEQ, c'est pas
Ok.
juste ceux du Québec. On a aussi ceux de Newfoundland,
Des
ceux des
maritimes,
Maritimes, c'est
c'est
ça,
ça.
dans le fond, qui vont être là. Donc, là, je pense vraiment qu'on va voir vraiment de quoi les vraies équipes, les vrais top coureurs de chaque équipe. Donc, pour avoir une vraie idée, ça devrait ressembler à quoi les provinciaux.
C'est ça.
Ensuite, retour sur
Ah, j'aurais peut-être
le.
juste voulu
Oui,
ajouter
rajoute,
quelque
vas-y,
chose.
rajoute-toi. Oui.
Ben ça, j'aimais ça comme première course de cross-country au niveau universitaire.
Ouais.
Puis ça faisait quand même 3 ans que j'avais pas fait de course. J'avais fait les cross-country au niveau collégial au
Ouais.
cégep. Ça faisait déjà 3 ans à peu près que j'avais pas fait de course. Puis là, de revenir dans une course de cross-country au niveau universitaire, j'aimais ça. Ça m'a permis d'être bien poussé tout au long de la course.
Ouais, c'est le fun,
J'avais beaucoup.
l'esprit, là, tu sais.
Puis même dans le premier 500 mètres environ, j'étais avec un pack de 5 gars de mon équipe pour commencer le premier 500 mètres. Puis ensuite, j'ai resté avec 2 autres gars dans mon équipe que mon coach me disait d'essayer de rester avec un. Que justement, j'ai dépassé mon ami un peu plus tard à la fin de la course. Là. Mais ça, c'est une belle course parce qu'on était plusieurs à être prêts.
Ouais, mais
Chacun une
c'est
course
ça.
dans la même équipe.
C'est souvent le fun, c'est ça. Le cross, ce qui est le fun, c'est les gros masters. Donc, t'as plein de monde au départ. Puis, tu trouves toujours du monde à qui courir. Puis, avec qui pousser. T'sais, course sur route, des fois, ça peut arriver souvent que. Ben, souvent, tu te retrouves tout seul à par moment. Mais le cross-country, c'est quand
Il y a
même
toujours quelqu'un
le
d'autre.
monde. C'est ça. Il y a souvent,
Tu
t'as
sais,
souvent
comme le
quelqu'un à
lapin, si on
côté.
veut, ou.
C'est ça. Puis, tu pousses. Tu as envie de finir devant l'autre. Puis, t'as l'esprit d'équipe qui est là, qui te force vraiment à te pousser plus. C'est quand même. C'est sûr que moi, j'aime moins la surface, le terrain du cross-country. Je préfère la route. Mais l'esprit d'équipe, l'esprit, comme que tu essaies toujours d'aller chercher la position de plus. Il y a tout le monde qui crie à la fin: Let's go,
C'est
let's go.
ça. Ben,
C'est
pendant toute
toujours le
la course,
fun.
il y a
Ah
des
ouais.
spectateurs un peu partout.
C'est ça. En plus que là, c'est à McGill. Donc, ouais. Là, quand tu vas faire ça à Sherbrooke, là, ça se peut que le monde te hue. Non, il y a personne qui eut personne, je crois. Mais ouais, bref, un bel esprit. Puis aussi, à noter cette année que les cégeps n'étaient pas présents. Donc, dans le passé, ça a toujours été universitaire et cégep qui
Tous
couraient
ensemble.
tous ensemble. Et là, j'ai jasé un peu avec Dennis, le gars qui. C'est l'entraîneur-chef de McGill et c'est lui qui a
Le
organisé cette
coach.
course. Et dans le fond, il m'a expliqué que ça a l'air que le RSEQ ou les cégeps voulaient avoir leur propre course. Ben, lui, ça le tentait pas parce qu'il disait non, c'est mieux si c'est ensemble, puis ça fait plus de courses à faire. Puis bref, il n'était pas intéressé. Puis ça a l'air qu'il s'est fait annoncer ça vraiment en dernière minute que finalement les cégeps ne seraient pas présents. Donc c'était quand même un peu drôle de me pointer là, puis de voir qu'il y avait comme moins de monde, je comprenais pas au début.
C'est ça.
Puis c'est ça, c'est que les cégeps n'étaient pas là. Un peu décevant, je trouve, parce que c'est le fun quand il y a comme plus de monde, c'est un peu plus excitant. En même temps, ça donne un peu plus le feel des courses de cross-country aux States, un peu. Que, aux States, souvent, tu peux avoir des courses que tu as deux équipes.
Ok.
T'sais, ou trois
Ah, c'est
équipes.
beaucoup de
Là, t'sais,
personnes,
c'est,
là.
ben, juste parce que c'est comme ça,
Oh,
là-bas.
oui.
C'est un autre vibe. Il y a un film, je pense que c'est McFarland, USA, ou quelque chose du genre, que c'est une histoire d'un coach d'une équipe de cross-country qui est pourrie, puis là, il réussit à les faire monter, puis tout, là, un classique film de Disney, là. Mais c'est un bon film, là. Il était bien coté sur Rotten Tomatoes, je pense bien. Puis ça, j'avais checké, puis c'est ça, c'était intéressant de voir ça. Je voyais ça, ben, voyons, deux équipes, c'est quoi cette affaire-là? Mais au States, c'est de même dans certaines. Il y a comme des plus petits meets. Là, quand il y a beaucoup d'équipes, ça c'est comme le gros meet du State ou quoi.
Ouais, comme
Mais,
un peu les provinciaux.
ouais, c'est ça. Mais c'est drôle, ils sont quand même habitués à moins. Fait que intéressant. Mais donc ça avait donné un peu plus cette vibe-là. Mais ouais, je trouve ça un peu décevant, c'est un peu triste parce que je me souviens de l'avoir couru au cégep. C'était la première fois que je l'ai fait quand j'étais avec le cégep Andrando. C'est toujours la première course aussi pour nous de l'année. Puis c'est sûr, c'est un peu démoralisant quand t'es au cégep parce que tu te fais planter par des gars 2, 3 ans plus vieux que toi. Puis tu finis bien loin dans le classement. Mais techniquement, t'as le classement des cégeps. Fait que tu peux voir ton score overall,
Oui,
mais tu peux
c'est
aussi
ça.
voir ton score des cégeps. Donc, tu sais, moi je me souviens, j'avais été 101e overall, puis le cégep, je sais pas, 40e, 30e, 50e, je me souviens plus exactement, mais tu sais, c'était pas aussi pire que le overall, c'était quand même
C'est ça.
correct, là. Fait que c'est sûr, c'est démoralisant quand tu vois, mais en même temps, c'est le fun, t'as plein de monde que tu cours
Oui.
avec, t'as de lui ici. C'est sûr qu'au départ, dans le master, c'est un peu, ça peut être un peu plus problématique, mais une fois que ça s'est passé, même, c'est le fun d'avoir du monde à qui courir.
Oui.
Donc,
T'as plus de
bref.
gens à qui s'accrocher.
C'est
Puis
ça.
tu te dis que de toute manière, quand tu vas être rendu, si tu veux toujours continuer au niveau universitaire,
C'est ça, ça te
tu
donne
vas
une idée c'est
développer plus
quoi?
la vitesse, puis
C'est ça, ça te
devenir
donne une
plus
idée c'est
rapide.
quoi? Bienvenue dans la cour des grands. Hein?
C'est ça.
Maintenant, on passe au 10 km de l'Université Laval qui avait lieu dimanche passé. Comme j'avais prédit qu'il serait très probable d'arriver, ben, très possible, Anne-Marie Comeau n'était pas présente. C'est quand même étrange parce qu'elle vient courir, avait fait une publication sur sa page Facebook le vendredi, je pense, qui disait Venez voir Anne-Marie Comeau courir. Donc, sûrement, moi, ce que je pense qui est arrivé, c'est que elle savait pas jusqu'à la dernière minute si elle le ferait ou pas, en fonction de sa blessure, puis qu'elle l'a annoncé le soir d'avant, un peu comme si c'était le cas au demi-marathon du Mont-Tremblant. Parce que tu sais, je vois pas quoi d'autre qui pourrait l'empêcher de courir, parce que sinon, c'est cracher sur 1000$. Je vois pas qui ferait ça.
Ouais, c'est peut-être plus du côté de d'une blessure.
Exactement, c'est ça. Il y a juste ça que je vois. Donc, ben, comme elle était blessée, ben, j'ai eu raison dans mon guess que Maggie Dargy l'emporterait. Elle l'a emporté en 35-36. Ariane Raby était en bonne forme finalement. Donc, j'avais dit, on verra, ça dépendra dans quelle forme elle est. Elle était en bonne forme,
Et ça fait deuxième
35-56.
place.
Ouais, une belle deuxième place. Et Pia Némé, qui est vraiment au photo finish, est allée voler la victoire, ben voler la troisième
Troisième
place
place.
et la bourse de troisième place de 400 pièces à Karine Lefebvre. Donc les deux ont exactement le même temps, 36-31. Mais au photo finish, ça s'est décidé et c'était Pia
En
Némé
dernier, mais.
qui l'emportait. Donc bravo. Je l'ai pas vu moi-même parce que je courais. Mais ben, en fait, j'avais fini de courir, mais j'étais en train de souffler. Mais ouais, bravo. Et Sabrina Saint-Gelais, 36-42. Je sais pas trop si elle est déçue de sa course. Probablement un peu. Je sais pas c'est quoi qu'elle visait exactement comme temps, mais moi je la voyais un peu plus. Je la voyais se battre un peu avec Maggie au début, peut-être, ou du moins Pia. Parce qu'elle l'avait. Il me semble qu'elle l'avait devancé aux 15 kilos. Peut-être que je me trompe. Donc probablement, peut-être qu'elle est un peu déçue avec sa course, peut-être aussi que c'est les autres qui ont connu une très bonne course, puis que Sabrina, ben, elle avait une course correcte, mais juste pas assez pour les battre. Mais elle va quand même finir avec un bon classement dans la Coupe Québec, on y retournera après. Et c'est ça, Josée Picard-Arsenault, 6e, Annie Lapelle, 7e, Anne-Laure Ménard, 8e. Catherine Royer, 9e, et Elisabeth Pellerin, 10e. C'est étrange, on dirait qu'il y a eu une disqualification, quelque chose, parce que je me souviens que Catherine Royer était 10e dans la fois que j'avais regardé. Peut-être que j'avais mal regardé, mais ouais, étrange. On va aussi vous montrer quelques photos. J'ai comme un problème avec mon Facebook qui veut pas montrer en gros les photos, mais ceux qui regardent YouTube, on peut voir un petit peu Sabrina. Là. Vous voyez si je clique sur
C'est
sa
l'interface
photo.
web de
Ouais,
Facebook qui a un problème en ce moment.
ouais, sur Chrome, ça marche pas, on essaye. Ici, Pia, Karine, on voit Ariane, deuxième, et Maggie, avec la face crispée un petit peu. Mais pour de vrai, en voyant cette face, je sais que c'est pas si pire. J'ai vu sa face à tremblant, puis c'était bien
Ouais,
pire.
c'est
Fait
vrai.
que, y a beaucoup de monde qui disait, ah, elle avait l'air. Je me souviens que j'ai avec quelqu'un qui disait, ah, boy, ça avait l'air pénible pour elle. Je suis comme, ouais, sûrement, mais comme, j'ai déjà vu pire comme face. Donc, Je sais pas à quel point c'était si pire, mais elle avait une bonne avance quand même de 20 secondes sur sa plus proche compétitrice. Donc je pense pas que c'était si pire pour elle. Ensuite, classement masculin. Thomas Fafard a réussi à me battre. Il a fini 6 secondes devant moi, juste un petit peu moins que 6 secondes. J'ai fini deuxième. Ensuite, Alexis Lavoie-Gilbert, troisième. Anthony Larouche, quatrième. Guillaume Ouellette, cinquième. Pierre Loubeyrou, sixième. Guillaume Dupire, septième. Kevin Bédard, huitième. Jean-Pierre Morin, neuvième. Maxime Gonneville, dixième. Benjamin Mérimont, onzième. Maxime Lopez, 12e. Shout-out à Patrick Léo-Gagnon qui ne faisait pas... il était peut-être inscrit aux élites, mais il n'était pas dans l'annonce des élites, me semble. Non, c'est ça, parce que son numéro de bib est 503. Donc, il faisait même pas partie de l'élite. Puis, il a réussi à se mettre parmi eux. Il a fini 13e en 32-38. Mmh. Mais ensuite, on a François Landry aussi qui s'est immiscé là-dedans. Il n'a pas un numéro de bib de sort... d'élite, 32-45. Et ensuite, Aaron Manning, 33-11. Mm-hmm. Donc, qui était notre dernier élite avec le numéro 2. Petit shout-out à Kurt Ebling d'AVM qui a fini 17e, donc de mon équipe. Je vais donner un t'inquiète, sinon c'est chien pour Johan Alexander Salazar. Donc, bravo à toi aussi avec ta 16e position. Bref, petit récit de course pour j'étais assez bien placé pour savoir qu'est-ce qui se passait vu que j'étais dans cette course en tête de course. Ma stratégie de course était de partir vite pour essayer de semer Thomas Fafard parce que je savais que lui dans le dernier 1500 mètres c'est à peu près sûr qu'il me bat. Son temps au 1500 mètres c'est 3 minutes 42 je pense. Moi c'est 3,53 puis ça date de il y a un bon bout. En ce moment, je pense pas que je ferais 3,53. Je pense plus, si je fais en bas de 4, je serais content. Donc, sur 1500 mètres, il devrait me dominer. Donc, ma stratégie, c'était d'essayer de le fatiguer pour pas qu'il y ait cette énergie-là, de donner un coup à la fin. Essayer de le semer avant là.
Est-ce que ta stratégie c'était surtout d'essayer de le semer dans le premier 5 km?
Pas nécessairement, mais c'était juste d'assurer un bon rythme, tu sais, d'assurer que ça va un bon rythme. Moi ma stratégie c'était juste pousse, puis essaie d'être juste à ta course de vitesse de 10 km que tu fais le temps le plus rapide possible en espérant que ça va assez le fatiguer. Puis on était vraiment un bon groupe, je te dirais à 5, j'étais assez surpris qu'on soit aussi nombreux. Fait qu'il y a beaucoup de monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont poussé un peu plus qui pousserait normalement pour rester avec le groupe de tête. Puis après au 6e, 7e kilomètre, là c'est là que le monde a vraiment commencé à lâcher. Je me souviens, j'ai jasé avec Guillaume Ouellette, qui lui a fini 5e, puis qui disait dans le fond, c'est ça, lui... On a passé à, je pense, 15-10, 15-15 pour le premier 5 kilos, ce qui est quand même rapide. Puis il dit après ça, il a fait comme 16-20, quelque chose du genre pour son deuxième 5 kilos. Donc, une bonne différence. Puis je pense qu'il n'est pas le seul à avoir parti assez vite, puis après ça, ralenti. Pierre-Olivier Lafleur, qui finalement, ça, il a drop out autour de 6 kilos. Lui, dans le fond, il était là pour essayer de finir dans le top 3. Puis il a vu qu'il y en avait d'autres qui étaient là. On a Alexis Lavoie-Gilbert qui s'est accroché jusqu'à 6-7 kilos. Tony Larouche, je ne me souviens plus exactement quand est-ce qu'il a lâché, mais quand est-ce qu'il a lâché le pack en avant. C'était pas. C'était quand même à passer 6 kilos, je pense. Je pense qu'il ne sentait pas bien, puis il sentait qu'il pourrait pas finir là. Donc, le DNF. Puis dans le fond, c'était deux loops de 5 kilos environ. Ça. Donc, c'était. Dans le fond, il voulait pas finir trop loin du finish, dans le fond. C'est ça. Donc, à 5 km, on était un bon. Quand même, encore un bon pack. J'étais assez surpris. Puis j'étais un peu énervé. Je comprenais pas trop. Mais OK, on va continuer. On va essayer de les semer. Puis c'est ça, autour de 7 kilos, là vraiment, ça a commencé. Là, je me souviens, il y a Alexis Lavoie-Gilbert qui a passé devant par un petit bout quand il y avait un vent de face. Moi, je me suis juste rangé derrière lui, je suis en parfait. Puis je pense que c'est ça, je pense que là c'était quand même un peu son effort final. Puis après ça j'ai comme donné un coup quand il n'y avait plus trop de vent ou un vent moins fort. Puis là je pense qu'il s'est pas accroché là, puis c'était juste moi puis Fafard. Mais ça, je suis quand même surpris. Il y a eu une bien meilleure course qu'au 15 km. Là, il avait fini, je pense, quasiment 1 minute ou 30 secondes derrière les deuxièmes et troisièmes. Donc, ça m'avait comme un peu surpris cette fois-là. Je me disais, t'es blessé ou quoi? Fait que là, mais là, cette fois-ci, il nous a positivement surpris. Il nous a montré qu'il était là. C'est ça. Donc, 2500 mètres à faire, Fafard a donné une accélération. Vraiment, c'était vraiment surprenant. Il est juste parti super vite. D'un coup, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe là? Moi aussi, j'ai accéléré comme un fou pour le rattraper. Puis ça m'a donné tout un coup dans les jambes. Mais là, il a ralenti. Je pense qu'il a réalisé qu'il était encore un peu trop tôt pour partir. Ben en fait, il me l'a confié après la course que c'est ça. Il a juste essayé. Il avait peut-être espéré que là, je resterais pas. Puis il a vu que je restais. Puis il y avait un vent de face. Donc il a fait, OK, non. Puis. Fait que là, après ça, moi je voulais essayer de me séparer de lui à 3000, 2000 mètres à faire. Le problème, c'est que ça, c'est qu'on avait le vent de face. Il y avait un bon gros vent de face. C'est pour ça que, dans le fond, certains spéculaient qu'il y aurait peut-être un sub 30, mais il ventait trop cette journée-là. Je l'ai pas trop senti dans la course, mais il y a beaucoup de monde qui m'ont dit qu'ils l'ont senti. Puis en y pensant après, c'est vrai qu'il y avait quand même un bon vent. C'est juste avec l'adrénaline, on n'y pensait pas trop, mais je le sentais quand même. Et c'est ça, fait que je pouvais pas me séparer. Si j'accélérais, lui, il serait juste rangé derrière moi.
C'est ça,
Ça
tu
serait
serais
juste moi
resté
qui.
dans le banc.
C'est ça, je ferais juste tout le travail, je me fatiguerais, puis lui, il relaxerait derrière moi. Donc tous les deux, on était en mode, on va pas trop vite, on se fatigue pas trop, plus qu'il faut dans le vent. Puis ça va se jouer dans le dernier, ben, quand quelqu'un va faire un move. Puis celui-là, 1500, là, il a fait son vrai move. Il est parti, j'ai essayé de m'accrocher, mais moi, si j'avais voulu m'accrocher, il aurait fallu que je fasse ma vitesse de sprint quasiment. Donc, je pouvais pas. J'espérais que lui, c'était son bet, c'était que j'allais comme juste lui laisser un espace. Mais que lui est en train de se tuer, tu sais, c'était mon bet que je faisais parce que c'était ma seule chance dans le fond. Puis c'était à moitié le cas, il avait quand même assez d'énergie encore. Il était quand même assez frais à 1500 mètres à faire, mais on a jasé après la course, puis il m'a dit que à 5 kilos, il était bien relax. Il m'a dit qu'il s'était tapé en entraînement un 15-06, un 5 kilos, un 15-06,
C'est bon.
ouais, c'est ça, environ 2 semaines plus tôt. Fait que tu sais, il était en shape. Il n'y avait pas grand chose à faire. J'ai essayé de m'accrocher autant que possible. Je me souviens, juste avant de rentrer dans le stade, on monte une côte. Puis là, je l'ai senti tout de suite après. J'ai fait ouf! Je sentais mes jambes comme du ciment. Puis il m'a dit qu'il l'a senti lui aussi. Donc si j'avais poussé un peu plus, mais en même temps, les jambes étaient vides. Il a fini 16 secondes derrière moi. Puis j'ai quand même poussé assez fort jusqu'à la fin. Donc je pense qu'il n'y avait rien à
Arrivé à
faire.
monter dans les deux cas.
Oui, c'est ça, je suis quand même content, mais c'est ça. C'est quand même toute une déception parce que je voulais essayer de remporter les quatre pour faire le grand chelem. Malheureusement, c'était impossible. Je suis déçu, mais en même temps, je suis pas fâché de comment j'ai couru parce que j'ai vraiment réalisé mon plan comme je voulais le faire. Puis il y avait juste rien à faire.
C'est ça, t'as tout donné à la dernière course.
C'est ça, j'ai tout donné à cette course-là. Puis des fois ça donne pas ce qu'on veut. Puis il faut relativiser les choses. Je suis quand même très chanceux. Souvent le truc que je me dis, tu sais, il y a certaines personnes qui disent que tu devrais pas te comparer, mais en même temps je trouve c'est bon des fois de se comparer. Tu sais, on dit quand on se compare on se console. Puis pas juste de dire oh je suis devant Dortmund plus lent, de se dire juste je suis pas blessé, je suis capable de courir, je fais quand même des bons temps pour moi, tu sais, ça n'a pas besoin d'être un bon temps, ça n'a pas besoin d'être je suis plus rapide que ta personne, juste
Un
je
bon
fais
temps
un,
pour
c'est
toi-même.
ça, je fais un bon temps pour
Ouais, ça, c'est
moi-même, je suis content de mon temps en général, l'autre était plus rapide que moi, mais tu sais, comme les Rolling Stones disent, you can't always get what you want, puis c'est la vie,
ça, c'est pas.
faut pas trop se morfondre. C'est sûr, je suis pas super content. J'aurais voulu l'avoir, mais en même temps, faut regarder les choses, faut se mettre en perspective. T'sais. Overall, t'sais, peut pas être trop déçu de ça. Un PB quand même, donc Donc quand même, donc photos, des petites photos d'après-course. Ben, tout d'abord, on va regarder chaque personne. On a Guillaume Ouellet ici, Alexis Lavoie-Gilbert, Thomas Fafard qui tire la langue un peu, et moi qui est un peu déçu, un peu. Et enfin, celle-là, je voulais la mettre en gros, fait que j'ai réussi en allant sur son profil. Puis en cliquant sur la photo, ça reste juste les photos d'une page Facebook qui marche pas bien, qu'on peut pas voir en gros. Mais la photo de Tony, dans le fond, qui s'accrochait, dans le fond, lui, il fallait vraiment qu'il fasse quand même un bon temps. Parce que Alexis Lavoie-Gilbert pouvait le rattraper au classement. Si lui, il faisait une mauvaise course, puis que Alexis faisait un assez bon temps. Parce que les deux, ils avaient seulement fait. Ils avaient pas fait le demi de Tremblant. Donc cette épreuve-là était l'épreuve qui comptait, ça comptait. Et Lavoie-Gilbert était derrière lui dans le classement, mais ça pouvait changer à cette course. Ben là, dans le fond, il m'a raconté qu'à autour de 7,2 ou 7,5 kilos, 7,8, je suis plus trop sûr, dans ces environs-là, il a pogné une grosse crampe. Fait que là, ça l'a forcé de ralentir, mais il fallait qu'il pousse parce qu'il fallait qu'il garde un temps pas trop mauvais pour qu'il ait assez de points pour qu'il réussisse à garder sa position pour la Coupe du Québec, la Coupe Québec. Il a réussi au final, donc on va aller voir les classements bientôt, mais c'est la face, il a toujours des bonnes faces dans ses finishes, il donne toujours jusqu'à la fin, mais celle-là était, je me souviens, j'avais vu sur Facebook tout de suite après. Puis j'avais fait ouf, ça, celle-là, il y a vraiment toute une
Face
face.
d'un guerrier
Puis,
un
ouais, une face de
peu.
guerrier. Puis oui, comme de fait, il m'a dit oui, j'étais en train de. J'avais couru sur une grosse crampe pendant 2-3 kilos, donc c'est pas pour
Ça
rien qu'il
faisait
y avait cette
mal,
face-là.
c'est
Ça
ça.
faisait mal. Mais bravo, ça a le
Félicitations.
payoff à la fin. Au classement final, dans le fond, moi je savais déjà que je l'emportais vu que j'ai fini devant Anthony à cette course-ci, puis j'étais déjà devant lui au classement. 2816 points. Anthony qui va finir deuxième, 2668. Et Alexis Lavoie-Gilbert, troisième, 2551. Jean-Pierre Morin, quatrième, 2318. Et Pierre Loubiro, 1687. Mais parce qu'il a juste fait deux épreuves, donc ça aurait été intéressant s'il en avait fait trois, parce qu'on regarde, il a fait presque 1700 points. Si on dit 1700 points, ça revient à environ 850 points par épreuve. Okay? Donc si on rajoute 850 points à 1700, ça nous donne 2550, soit un point
Ce qui aurait été proche,
derrière Alexis
c'est ça.
Lavoie-Gilbert. Donc s'il avait fait une de
Aurait pu
plus,
s'avérer
qui
sa
sait,
ligne.
ouais, ça aurait pu. Mais bon, peut-être qu'il savait pas trop. Peut-être que, ben, dans le fond, peut-être qu'il court plus les 5 puis les 10 puis les 15, c'est un peu trop. Peut-être que ça allait pas dans son horaire. On sait pas trop. Dans le fond, ça aurait été intéressant de voir. Mais bon, peut-être l'année prochaine. Si on regarde par catégorie d'âge, j'ai gagné pour les 20-29 ans, 30-39 ans, Julian Ortiz, qui était le seul personne de 30-39 ans à avoir fait deux courses. Donc, par défaut, tu l'as. Donc. Ben, bravo. Et on a Maurice Bélanger qui a fait les étapes 2 et 3, qui pour les 40-49 ans. 50-59 ans, Michel Cusson. Là, on a plus de participants. C'est quand même drôle, dans les catégories d'âge plus vieux, on a plus de monde qui ont fait de la Coupe Québec. Si on regarde à autre que les 20-29 ans qui étaient les élites, disons. Mais outre ça, c'est quand même intéressant de voir ça, que dans les plus âgés, on avait plus de participation. 982 points pour Michel Cusson, Stéphane Gagné, deuxième en 490, et Jean Robitaille, troisième en 116. Et finalement, pour les 60-69 ans, Danny Galarneau, 1148, lui qui a fait trois étapes. Et oui, là, on regarde 60-69 ans, là, ils ont fait trois étapes et non deux comme les autres. Donc vraiment, ça, c'est. Il y avait une bonne bataille quand même pour ces catégories d'âge. Danny Galarneau qui a fait un record du Québec au 10 km de Mercier-Laval, un record d'âge. Daniel Marcotte, deuxième, 687. Et Les Landsberger d'Athlétisme Ville-Marie, 456. Troisième position. Chez les filles, pas de surprise. Maggie Dargis, qui avait déjà une bonne longueur d'avance en ayant gagné les deux premières épreuves, les deux premières étapes. Donc, elle remporte assez facilement avec 2960 points. Sabrina Saint-Gelais, qui va quand même aller chercher la deuxième position. avec 2748 points. Et Annie Laperle, troisième position, 2604. Elle finit pas loin devant Bianca Prémont, 2583 points.
Oh,
et c'est quand même un peu surprenant. J'aurais cru que Bianca finirait devant. Ce qui est arrivé, c'est que Bianca n'a pas fait le 10 km de l'Université Laval, qui était un parcours assez rapide quand même. Outre le vent, c'est quand même un parcours rapide. Donc d'avoir manqué cette épreuve, je pense que c'est ça qui a coûté, qui lui a coûté la troisième position. Parce que si elle l'avait fait, bon, on peut pas savoir, mais je pense que ça lui aurait donné un meilleur pointage que Annie Laperle. Mais bon, bravo Annie Laperle. 2604 points, quelques points devant, juste assez pour battre Bianca Prémont. Au 20-29 ans, Maggie l'emporte. 30 à 39 ans, Bianca Prémont qui l'emporte. Suivi de Pia Némé et Catherine Royer, que j'ai reçu à mon podcast la semaine passée. 40-49 ans, Annie Laperle qui l'emporte. Donc, c'est quand même intéressant. Une femme dans les 40-49 ans qui a fini troisième overall, quand même fort. Une master. Et 50-59 ans, José Aubin, qui est la seule à avoir fait trois épreuves pour sa catégorie d'âge. Donc, France Dubourg, qui a juste fait deux épreuves et qui a eu 1113 points, donc seulement 200 points derrière. Probablement que si elle en avait fait trois, elle l'aurait emporté. Mais, probablement, parce que tu regardes, elle a fait en moyenne 500 points par épreuve, versus l'autre, plus près de 400 points. Mais peut-être qu'elle avait quelque chose qui l'empêchait. Et Chantal Mascotte, troisième, 861 points. Donc, c'est ce qui récapitule notre Coupe Québec. Et finalement, une nouvelle du monde de la course en général, chez les sprinters, Christian Coleman, qui a trouvé ses avocats ont trouvé un loophole, une façon de bien s'en sortir. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il a eu trois tests, drug tests, hors compétition, des tests d'antidopage dans les derniers 12 mois. Donc, il aurait, vu qu'il les a manqués, dans le fond, il aurait dû avoir être banni pendant 2 ans. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il existe plusieurs types de bans. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il la façon, il existe deux types. Il y a un type que c'est que, oui, dans le fond, il y a un type que c'est, il faut que tu précises, c'est que tu n'as pas assez bien précisé où est-ce que tu serais. Puis il y a un type, c'est juste que tu n'étais pas présent là où tu as dit que tu serais.
Okay.
Et dans le fond, c'est que il faut que tu dises un endroit où est-ce que tu vas être une fois par jour, dans une période de 1 heure. Dans le fond.
Ouais.
Donc maintenant, moi je dis, le lundi, je vais être le lundi tel septembre, je vais être disponible de 19h à 20h à tel endroit. Il faut dire pour chaque jour. Donc, c'est quand même demandant, mais après tout, c'est des athlètes qui ont des contrats à millions. Donc, je pense qu'ils peuvent se le permettre. Peut-être pas le average Joe qui a une job et tout, mais eux, ils peuvent se le permettre. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un de ces deux types, il y en avait un ou deux qui étaient du type qui n'a pas assez bien précisé où est-ce qu'il serait dans ses réglementations, où il n'a pas updaté, tandis qu'il y en avait un autre, c'est juste qu'il n'était pas présent, ou deux autres qui n'étaient pas présents à l'endroit qu'il disait qu'il serait. Puis un de ces types-là, c'est que c'est compté à partir de quand tu es censé faire le report, d'écrire « ok, je serai présent à tel moment », et à cause de ça, ça fait que ça fait plus que à l'intérieur d'un an, à l'intérieur de 12 mois.
Ouais.
Donc, techniquement, il y a juste eu deux violations à l'intérieur de 12 mois. Donc, vu que c'est juste deux à l'intérieur de 12 mois, à cause que tu comptes à partir du premier jour du mois, versus que tu comptes à partir du moment que la violation a eu lieu, il lui arrivera rien. Donc, c'est quand même drôle qu'un petit loophole comme ça te permet de t'en sortir de même. Mais il s'en sort. C'est assez spécial. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça?
Ouais, c'est questionnable un peu comme, comme fonctionnement. Il y a du monde, je disais, trois rendez-vous qui étaient spécifiés à quel endroit tu allais être.
Ouais.
Finalement, tu te présentes pas à trois
Mais
reprises. Ouais, tu te fais
il y en
lancer
a un
dehors.
cas que c'était
Ouais,
que un ou deux
ouais
cas
c'est
qu'il s'est
ça.
pas présenté, puis l'autre c'est que il avait juste pas été assez
Ok,
précis ou quelque chose dans son report.
oh, ouais. Mais c'est
Mais
quand même
ouais.
trois fois que ça arrive dans une période qui est d'environ un an, à
De,
peu près,
ouais,
là.
environ juste un petit peu plus qu'un an parce que
C'est-à-dire une
techniquement
fois.
c'est arrivé en dans un an les violations, mais c'est que
C'est
elles
ça, pour ça
sont
que je dis environ un
comptées.
an,
Ouais,
là.
mais c'est juste, c'est 13 mois, mais
Oh,
c'est
oui.
une est comptée juste au début du mois à cause
C'est
que
ça,
c'est à ce
genre.
moment-là que le report a été
Émis, là.
rempli, émis. Donc, ouais, moi je trouve ça très spécial. Je trouve ce monsieur Coleman pas mal louche. Peut-être qu'il a rien fait. C'est quand même moins louche que la plupart des Russes, puis toutes leurs manigances. Mais c'est quand même très, très, très louche de manquer autant de tests.
C'est quand même un test qui est quand même assez important dans le sport par
Oui,
rapport à l'intégrité,
c'est
là.
très important. C'est sûr que aux États-Unis et au Canada sont quand même, je vais pas dire de chiffres, mais on va dire 1 million de fois parce que vous savez que c'est pas un, vous savez évidemment que c'est pas 1 million de fois, mais un
Oh oui.
million de fois mieux testé
Que les méthodes
que la
manuelles.
majorité des pays parce qu'ils se font tester beaucoup plus régulièrement et tout ça. Mais c'est ça. Si tu manques de rigueur comme ça. C'est pas fort, puis les gens vont avoir des doutes, puis ils auront validement des doutes parce
Juste question de confiance.
comment est-ce qu'on est censé te tester si tu manques tes tests? Tu sais, hors compétition, c'est facile, les tests dans les compétitions, t'as juste à t'assurer d'arrêter de prendre qu'est-ce que tu prends juste avant ta compétition pour que ce soit détectable. Là, les tests hors compétition sont là justement pour prendre ces personnes-là. Si tu te présentes jamais, si t'es jamais là pour te faire prendre, ouais. Très louche, bref, je suis un peu déçu de ça, mais regarde, pas fort. Bref, je compte faire le marathon de Montréal la fin de semaine prochaine, et je vais essayer de faire une petite capsule qui va dire mes trucs pour vous aider à vous préparer pour votre marathon, si vous faites celui de Montréal ou un autre. Mais on entre dans la saison des marathons, la saison d'automne, où est-ce que là, il commence à faire assez frais pour courir des marathons. Donc, je vais essayer de vous préparer ça d'ici là pour que vous ayez tous les trucs nécessaires pour bien performer au maximum de vos performances pour le marathon. Et ben merci pour tes commentaires, pour nous avoir relaté un peu comment cette course s'est passée. Puis, on se voit dans les semaines suivantes.
Oui, à la prochaine fois.